Yek au micro, dans quelques instants, Sahel+, avec Claire Morin-Gibourg. Mais d'abord, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité. Nous ouvrons sur la République centrafricaine. Violence entre communautés à Bambari, au centre du pays. Plus d'une dizaine de personnes auraient été tuées depuis hier. Et jusqu'en début de soirée, la tension restait vive au centre de la ville. À Bangui, les précisions de notre correspondant Freeman Sipila.
À l'origine de ces nouvelles violences, l'assassinat hier d'un jeune musulman par des hommes armés assimilés aux anti-balakas sur l'axe Simbolo à une vingtaine de kilomètres de Bambari. En représailles, des jeunes musulmans armés sont été pris à des civils non musulmans. Bilan provisoire, selon une source proche de la Croix-Rouge locale, plus d'une dizaine de morts, au moins 5 blessés, dont des agents du CICR agressés sur le terrain. Bilan non confirmé par Oumar Tidjani, conseiller juridique de l'association des jeunes musulmans de la Waka, avançant un chiffre de deux morts et des blessés. Jusqu'en début de la soirée, la tension était encore vive au centre de la ville. Plusieurs barricades ont été érigées dans certaines zones à majorité non musulmane. Les manifestants réclament l'arrestation et la traduction en justice du général Alindaras, chef de l'UPC, un groupe armé de la localité, accusé d'avoir mené les représailles aux côtés des jeunes musulmans armés. De son côté, l'UPC rejette ces accusations. Son porte-parole, le capitaine Mamad Nediad Ibrahim, parle d'interposition de leurs éléments pour éviter un drame. Des casques bleus de la MINUSCA sont déployés dans la ville pour tenter de ramener le calme. À Bangui, aucune réaction officielle n'est encore enregistrée de la part des autorités gouvernementales. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Et on reste en Centrafrique où le secrétaire général du parti de l'ex-président François Bozizé, Bertin Béa, est libre. Arrêté samedi alors qu'il allait prendre un vol pour Paris, M. Bertin a été libéré hier soir de force par des militants de son parti, le KNK. Ils ont attaqué le tribunal de Bangui. À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, le ministère public a requis 3 ans de prison contre 4 activistes du mouvement Lutte pour le changement, accusés d'incitation à la désobéissance. Nicolas Pineau.
Les 4 militants avaient été arrêtés en avril dernier dans la capitale du Nord Kivu. Ils réclamaient par le biais de tracts la libération de leurs camarades arrêtés mi-mars à Kinshasa, ainsi que le respect des libertés publiques. Maître Eric Sadiki, l'avocat des accusés, a déclaré à l'agence France-Presse que le parquet a été incapable de prouver quelle infraction ils ont commise, mais l'officier du ministère public a quand même requis 3 ans de prison. Le juge a mis le dossier en délibéré pour rendre un jugement au plus tard, le 11 septembre. Les avocats des 4 jeunes qui bénéficient d'une liberté provisoire ont plaidé l'acquittement dans ce procès qui s'est ouvert le 20 mai dernier au tribunal de grande instance de Goma. Le climat politique est tendu en République démocratique du Congo à l'approche des élections devant s'achever par la présidentielle en novembre 2016. La constitution congolaise interdit au président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, de se représenter. Mais ce dernier n'a toujours pas dévoilé ses intentions.
À Nouakchott, en Mauritanie, 3 militants anti-esclavagistes sont maintenus en prison pour une peine de 2 ans. Cette décision prononcée en janvier dernier a été confirmée hier par une cour mauritanienne. Ils sont poursuivis pour appartenance à une organisation non reconnue et rébellion. L'ex-chef de milice congolais Thomas Lubanga, condamné à 14 ans de prison pour crimes de guerre dans l'est de la RDC, a demandé une libération anticipée aujourd'hui à la Cour pénale internationale, niant avoir exercé des pressions sur des témoins dans un autre procès. À Bissau, la capitale, où la nuit a été calme, de nombreux habitants prônaient l'apaisement, redoutant que la crise politique ne dégénère en violence dans cette ex-colonie portugaise, ayant connu plusieurs coups d'État réussis ou avortés depuis son indépendance en 1974. La veille, la formation au pouvoir en Guinée-Bissau, le PAIGC, qui réclamait la reconduction du premier ministre destitué, Domingos Simoes Pereira, avait rejeté son remplaçant Bassirou Dia, nommé jeudi par décret présidentiel, et a appelé à manifester à Bissau. La force de l'Union africaine en Somalie a présenté ses excuses aujourd'hui pour l'assassinat dramatique de 7 civils lors d'un mariage le mois dernier, annonçant que 3 soldats avaient été inculpés, une attaque qu'elle avait niée précédemment. Les témoignages recueillis par l'AFP dans la ville portuaire de Merka, dans le sud de la Somalie, avaient rapporté que des soldats faisaient partie du contingent de 22 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie, la MISOM, et qu'ils avaient ouvert le feu à la suite d'un jet de grenade par les insurgés Chebab au passage d'un convoi le 21 juillet. Quelques heures après l'attaque, la MISOM avait catégoriquement dénoncé ces accusations mensongères. Et les députés somaliens ont fait part hier de leur détermination à organiser le vote d'une motion de destitution contre le président somalien Hassan Cheikh Mohamud, en dépit des avertissements de la communauté internationale sur les risques pour la paix et la reconstruction de l'État. Arrestation d'un avocat algérien spécialisé dans les droits de l'homme, exilé politique en Suisse avec sa famille depuis 15 ans, Rachid Mesli a été arrêté alors qu'il traversait la frontière italienne. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui les médias de ce pays. L'avocat fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis via Interpol par les autorités algériennes. Il avait été arrêté en 1996, accusé d'avoir encouragé le terrorisme après avoir défendu, en qualité d'avocat, des islamistes victimes de torture.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Législative en Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan appelle à la tenue d'un nouveau scrutin le 1er novembre. Mesure prise en raison de l'échec de négociations pour former un gouvernement de coalition à l'issue du vote de juin. Michel Joseph nous en dit plus.
Le président peut-il appeler à des élections anticipées selon la Constitution ? Pour Recep Tayyip Erdogan, la réponse est affirmative. Une disposition prévoyait pourtant qu'il revenait au Parlement d'appeler à un nouveau scrutin. Le chef de l'État a donc dû passer outre ce texte pour ordonner des législatives en novembre. Recep Tayyip Erdogan prévoit toutefois de rencontrer le président du Parlement lundi pour prendre des dispositions nécessaires. En attendant le verdict des urnes, le pays devra se doter d'un gouvernement de transition composé des représentants de chacun des partis qui siègent au Parlement. Mais depuis les élections du 7 juin, le parti islamo-conservateur de l'AKP, qui règne sans partage depuis 2002, a cherché en vain un partenaire pour gouverner suite à la perte de sa majorité.
Et c'est dans ce contexte de crise politique en Turquie que Washington demande à Ankara de faire plus pour lutter contre l'État islamique. Le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, exhorte notamment la Turquie à mieux contrôler sa frontière par laquelle transitent les djihadistes désireux de rejoindre la lutte armée en Syrie et en Turquie. Des frappes israéliennes en Syrie ont tué au moins 5 civils. D'après les médias d'État syriens, le raid aérien ciblait une partie syrienne du plateau du Golan. Une attaque qui, d'après Israël, intervient en représailles à des tirs de roquettes sur son territoire. Kim Jong-un place la Corée du Nord sur le pied de guerre. Le dirigeant a placé ses troupes en état d'alerte maximum. Cette décision survient à un moment où les tensions ont redoublé sur la péninsule après un rare échange de tirs d'artillerie entre Pyongyang et Séoul. Tatiana Mousseau.
L'ultimatum expire samedi matin, mais Séoul refuse d'obtempérer, affirmant que ses haut-parleurs continueraient de diffuser à plein volume des messages de propagande à la frontière. Ses troupes doivent être pleinement prêtes au combat et à lancer des opérations surprises, tandis que la ligne de front tout entière doit se trouver dans un semi-état de guerre, a décrété Kim Jong-un. Les chefs d'état-major sud-coréens ont répliqué en appelant à s'abstenir de tout acte irréfléchi et prévenu qu'ils ne resteraient pas les bras croisés en cas de nouvelles provocations. Kim Jong-un est un adepte d'annonces belliqueuses. En 2013, il déclarait déjà l'état de guerre avec le Sud. Techniquement, les deux pays sont en conflit depuis 65 ans, mais le cessez-le-feu n'a jamais été formalisé par un traité de paix. Jeudi, Séoul a accusé Pyongyang d'avoir tiré plusieurs obus en direction de l'un de ses haut-parleurs frontaliers. Séoul a répliqué en tirant des dizaines d'obus d'artillerie. Les échanges de tirs frontaliers directs sont extrêmement rares. La situation était déjà tendue avant les heures de jeudi, après l'attaque à la mine antipersonnelle imputée à Pyongyang par Séoul, dans laquelle 2 soldats sud-coréens ont été mutilés en début de mois. C'est cette affaire, justement, dans laquelle Pyongyang dément avoir joué le moindre rôle, qui avait poussé Séoul à reprendre sa guerre de propagande à la frontière après 11 années de silence.
Voilà pour ce bulletin d'information. Au micro, c'était Morgane Diriec. Je cède la place à Claire Morin-Gibourg qui vous propose Sahel Plus.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
C'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein.